voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Les académiciens racontent l'histoire de Louis XIV. Voici en effet le second volet de cette évocation du roi Soleil, avec les mots et sous la plume talentueuse du très combatif Voltaire, puis de l'historien Ernest Lavis, tous deux membres de l'Académie française. Si le premier rappelle les terribles méfaits de la révocation de l'édit de Nantes, le second évoque plutôt le développement du commerce, des comptoirs et des grandes compagnies. Mais tout d'abord, la plume, le style de Voltaire. François-Marie Arouet, dit Voltaire, naît en 1694 à Paris d'un père notaire. Il a 21 ans à la mort du grand roi, Louis XIV. Esprit brillant et frondeur, cet écrivain et philosophe a marqué le XVIIIe siècle. Symbole des Lumières, chef de file du Parti philosophique, son nom reste attaché à son combat pour le progrès et la tolérance et contre le fanatisme religieux. Il est cependant déiste. Et son idéal reste celui d'une monarchie modérée, libérale, éclairée par les philosophes. Il agit d'ailleurs auprès des élites éclairées de l'Europe des Lumières en se servant de son immense notoriété et prend seul la défense des victimes de l'intolérance religieuse et de l'arbitraire dans des affaires qu'il a rendues célèbres telles que l'affaire Calas ou l'affaire Sirven. De son imposante œuvre littéraire, on retiendra en particulier ses écrits philosophiques en prose, contes et romans, Candide est son ouvrage le plus célèbre, Lettres philosophiques, Dictionnaire philosophique et sa vaste correspondance. Mais son théâtre, ses poésies épiques, ses œuvres historiques firent aussi de lui l'un des écrivains les plus célèbres. Tout au long de sa vie, Voltaire fréquente les grands et courtise les monarques. Mais il est aussi en butte aux interventions du pouvoir qui l'embastille et le contraint à l'exil en Angleterre ou à l'écart de Paris. En 1749, après la mort d'Émilie du Châtelet, avec laquelle il a entretenu une liaison houleuse de 15 ans, il part pour la cour de Prusse. Mais déçu dans ses espoirs de jouer un grand rôle auprès de Frédéric II à Berlin, il se brouille avec lui après 3 ans et quitte Berlin en 1753. Il se réfugie un peu plus tard en Suisse, près de Genève, avant d'acquérir en 1759 un domaine à Ferney, sur la frontière franco-genevoise. Il s'y retire à l'abri des puissants, accompagné de sa nièce, Madame Denis. Ayant acquis une immense fortune, il mettra en valeur son domaine et fera de Ferney un centre intellectuel réputé dans toute l'Europe. Il y devient, selon sa propre expression, l'aubergiste de l'Europe. Il fait un retour triomphal à Paris en 1778. Il est fêté à l'Académie française où il avait été élu en 1746. Il meurt peu après, à 84 ans. C'est en 1751, alors qu'il séjourne à Berlin, que Voltaire fait publier « Le siècle de Louis XIV », résultat d'un immense labeur de documentation. Ce livre reste aujourd'hui encore important pour l'étude du XVIIe siècle. Voltaire y glorifie le règne de Louis XIV, le plus éclairé qui fut jamais. Pour compléter le portrait de ce roi ébauché au cours d'une première émission que vous retrouverez aisément sur le site de Canal Academy, nous avons choisi des extraits des derniers chapitres de cette œuvre historique et philosophique. Il traite des querelles religieuses. Sans renier son admiration pour Louis XIV, Voltaire y fait la satire des faiblesses du règne, l'absence de lumière. Nous écoutons donc, du calvinisme au temps de Louis XIV, des extraits des chapitres 36 du siècle de Louis XIV.
Louis Louis XIV était animé contre les réformés, par les remontrances continuelles de son clergé, par les insinuations des jésuites, par la cour de Rome et enfin par le chancelier Le Tellier et Louvois, son fils, tous deux ennemis de Colbert et qui voulaient perdre les réformés comme rebelles, parce que Colbert les protégeait comme des sujets utiles. Colbert, qui ranima l'industrie de la nation et qu'on peut regarder comme le fondateur du commerce, employa beaucoup de huguenots dans les arts, dans les manufactures, dans la marine. Tous ces objets utiles qui les occupaient adoucirent la fureur épidémique de la controverse et la gloire qui environna 50 ans Louis XIV, sa puissance, son gouvernement ferme et vigoureux, ôtèrent aux partis réformés, comme à tous les ordres de l'État, toute idée de résistance. Louis XIV, nullement instruit d'ailleurs du fond de leur doctrine, les regardait, non sans quelque raison, comme d'anciens révoltés soumis avec peine. Il s'appliqua d'abord à miner par degrés, de tous côtés, l'édifice de leur religion. On leur ôtait un temple sur le moindre prétexte. On leur défendit d'épouser des filles catholiques. Et en cela, on ne fut pas peut-être assez politique. C'était ignorer le pouvoir d'un sexe que la cour pourtant connaissait si bien. Les intendants et les évêques tâchaient, par les moyens les plus plausibles, d'enlever aux huguenots leurs enfants. Colbert eut ordre, en 1681, de ne plus recevoir aucun homme de cette religion dans les fermes. On les exclut, autant qu'on le put, des communautés des arts et métiers. Le roi, en les tenant ainsi sous le joug, ne l'appesantissait pas toujours. On défendit par des arrêts toute violence contre eux. On mêla les insinuations aux sévérités, et il n'y eut alors de rigueur qu'avec les formalités de la justice. On employa surtout un moyen souvent efficace de conversion. Ce fut l'argent. Pélisson fut chargé de ce ministère secret. Pélisson, longtemps calviniste, si connu par ses ouvrages, par une éloquence pleine d'abondance, par son attachement au surintendant Fouquet, dont il avait été le premier commis, le favori et la victime. Il eut le bonheur d'être éclairé et de changer de religion, dans un temps où ce changement pouvait le mener aux dignités et à la fortune. Il prit l'habit ecclésiastique, obtint des bénéfices et une place de maître des requêtes. On tâchait d'opérer beaucoup de conversions pour peu d'argent. De petites sommes distribuées à des indigents enflaient la liste que Pélisson présentait au roi tous les 3 mois, en lui persuadant que tout cédait dans le monde à sa puissance ou à ses bienfaits. Le conseil, encouragé par ses petits succès, que le temps eut rendu plus considérable, s'enhardit en 1681 à donner une déclaration par laquelle les enfants étaient reçus à renoncer à leur religion à l'âge de 7 ans. Et à l'appui de cette déclaration, on prit dans les provinces beaucoup d'enfants pour les faire abjurer, et on logea des gens de guerre chez les parents. Ce fut cette précipitation du chancelier Le Tellier et de Louvois, son fils, qui fit d'abord déserter, en 1681, beaucoup de familles du Poitou, de la Saintonge et des provinces voisines. Les étrangers se hâtèrent d'en profiter. Les rois d'Angleterre et de Danemark, et surtout la ville d'Amsterdam, invitèrent les calvinistes de France à se réfugier dans leurs états et leur assurèrent une subsistance. Amsterdam s'engagea même à bâtir 1000 maisons pour les fugitifs. Le conseil vit les suites dangereuses de l'usage trop prompt de l'autorité et crut y remédier par l'autorité même. On sentait combien étaient nécessaires les artisans dans un pays où le commerce florissait et les gens de mer dans un temps où l'on établissait une puissante marine. On ordonna la peine des galères contre ceux de ces professions qui tenteraient de s'échapper. On remarqua que plusieurs familles calvinistes vendaient leurs immeubles. Aussitôt parut une déclaration qui confisqua tous ces immeubles en cas que les vendeurs sortissent dans un an du royaume. Alors la sévérité redoubla contre les ministres. « On interdisait leur temple sur la plus légère contravention. Toutes les rentes laissées par testament au consistoire furent appliquées aux hôpitaux du royaume. On défendit aux maîtres d'école calvinistes de recevoir des pensionnaires. On mit les ministres à la taille. On ôta la noblesse aux maires protestants. Les officiers de la maison du roi, les secrétaires du roi qui étaient protestants, eurent ordre de se défaire de leurs charges. On n'admit plus ceux de cette religion, ni parmi les notaires, les avocats, ni même dans la fonction de procureur. Il était enjoint à tout le clergé de faire des prosélytes. Et il était défendu aux pasteurs réformés d'en faire, sous peine de bannissement perpétuel. Tous ces arrêts étaient publiquement sollicités par le clergé de France. C'étaient, après tout, les enfants de la maison qui ne voulaient point de partage avec des étrangers introduits par force. Pélisson continuait d'achever des convertis. Mais Madame Hervard, veuve du contrôleur général des finances, animée de ce zèle de religion qu'on a remarqué de tout temps dans les femmes, envoyait autant d'argent pour empêcher les conversions que Pélisson pour en faire. Enfin, vers 1682, les Huguenots osèrent désobéir en quelques endroits. Ils s'assemblèrent dans le Vivarais et dans le Dauphiné, près des lieux où l'on avait démoli leur temple. On les attaqua, ils se défendirent. Ce n'était qu'une très légère étincelle du feu des anciennes guerres civiles. 200 ou 300 malheureux, sans chef, sans place et même sans dessein, furent dispersés en un quart d'heure. Les supplices suivirent leur défaite. L'intendant du Dauphiné fit rouer le petit-fils du pasteur Chamier, qui avait dressé l'édit de Nantes. Il est au rang des plus fameux martyrs de la secte, et ce nom de Chamier a été longtemps en vénération chez les protestants. L'intendant du Languedoc fit rouer vif le prédicant Chomel. On condamna 3 autres au même supplice, et 10 à être pendus. La fuite qu'ils avaient prise les sauva, et ils ne furent exécutés qu'en effigie. Tout cela inspirait la terreur et en même temps augmentait l'opiniâtreté. Ce fut alors qu'on persuada au roi qu'après avoir envoyé des missionnaires dans toutes les provinces, il fallait y envoyer des dragons. Ces violences parurent faites à contre-temps. Elles étaient les suites de l'esprit qui régnait alors à la cour, que tout devait fléchir au nom de Louis XIV. On ne songeait pas que les Huguenots n'étaient plus ceux de Jarnac, de Moncontour et de Coutras, que la rage des guerres civiles était éteinte, que cette longue maladie était dégénérée en langueur, que tout n'a qu'un temps chez les hommes, que si les pères avaient été rebelles sous Louis XIII, les enfants étaient soumis sous Louis XIV. On voyait en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, plusieurs sectes qui s'étaient mutuellement égorgées le siècle passé, vivre maintenant en paix dans les mêmes villes. Tout prouvait qu'un roi absolu pouvait être également bien servi par des catholiques et par des protestants. Les luthériens d'Alsace en étaient un témoignage authentique. Il parut enfin que la reine Christine avait eu raison de dire dans une de ses lettres, à l'occasion de ses violences et de ses émigrations, « Je considère la France comme un malade à qui l'on coupe bras et jambes pour le traiter d'un mal que la douceur et la patience auraient entièrement guéri. » Louis XIV, qui, en se saisissant de Strasbourg en 1681, y protégeait le luthéranisme, pouvait tolérer dans ses états le calvinisme, que le temps aurait pu abolir, comme il diminue un peu, chaque jour, le nombre des luthériens en Alsace. Pouvait-on imaginer qu'en forçant un grand nombre de sujets, on n'en perdrait pas un plus grand nombre, qui, malgré les édits et malgré les gardes, échapperait par la fuite à une violence regardée comme une horrible persécution ? Pourquoi, enfin, vouloir faire haïr à plus d'un million d'hommes un nom cher et précieux auquel et protestants et catholiques, et français et étrangers, avaient alors joint celui de grand ? La politique même semblait pouvoir engager à conserver les calvinistes pour les opposer aux prétentions continuelles de la cour de Rome. C'était en ce temps-là même que le roi avait ouvertement rompu avec Innocent XI, ennemi de la France. Mais Louis XIV, conciliant les intérêts de sa religion et ceux de sa grandeur, voulut à la fois humilier le pape d'une main et écraser le calvinisme de l'autre. Il envisageait dans ces deux entreprises cet éclat de gloire dont il était idolâtre en toutes choses. Vers la fin de 1684 et au commencement de 1685, tandis que Louis XIV, toujours puissamment armé, ne craignait aucun de ses voisins, les troupes furent envoyées dans toutes les villes et dans tous les châteaux où il y avait le plus de protestants. Et comme les dragons, assez mal disciplinés dans ces temps-là, furent ceux qui commirent le plus d'excès, on appela cette exécution la dragonnade. Les frontières étaient aussi soigneusement gardées qu'on le pouvait, pour prévenir la fuite de ceux qu'on voulait réunir à l'église. C'était une espèce de chasse qu'on faisait dans une grande enceinte. Un évêque, un intendant ou un subdélégué, ou un curé ou quelqu'un d'autorisé, marchait à la tête des soldats. On assemblait les principales familles calvinistes, surtout celles qu'on croyait les plus faciles. Elles renonçaient à leur religion au nom des autres. Et les obstinés étaient livrés aux soldats qui eurent toute licence, excepté celle de tuer. Il y eut pourtant plusieurs personnes si cruellement maltraitées qu'elles en moururent. Les enfants des réfugiés dans les pays étrangers jettent encore des cris sur cette persécution de leur père. Ils la comparent aux plus violentes que souffrit l'Église dans les premiers temps. C'était un étrange contraste que du sein d'une cour voluptueuse où régnait la douceur des mœurs. Les grâces, les charmes de la société. Il partit des ordres si durs et si impitoyables. Le marquis de Louvois porta dans cette affaire l'inflexibilité de son caractère. On y reconnut le même génie qui avait voulu ensevelir la Hollande sous les eaux et qui depuis mit le Palatinat en cendres. Il y a encore des lettres de sa main de cette année 1685, conçues en ces termes. « Sa Majesté veut qu'on fasse éprouver les dernières rigueurs à ceux qui ne voudront pas se faire de sa religion. » Et ceux qui auront la sotte gloire de vouloir demeurer les derniers doivent être poussés jusqu'à la dernière extrémité. Paris ne fut point exposé à ces vexations. Les cris se seraient fait entendre au trône de trop près. On veut bien faire des malheureux, mais on souffre d'entendre leurs clameurs. Tandis qu'on faisait ainsi tomber partout les temples et qu'on demandait dans les provinces des abjurations à main armée, l'édit de Nantes fut enfin cassé au mois d'octobre 1685 et on acheva de ruiner l'édifice qui était déjà miné de toutes parts. La chambre de l'édit avait déjà été supprimée. Il fut ordonné aux conseillers calvinistes du Parlement de se défaire de leur charge. Une foule d'arrêts du conseil parut coup sur coup pour extirper les restes de la religion proscrite. Celui qui paraissait le plus fatal fut l'ordre d'arracher les enfants aux prétendus réformés pour les remettre entre les mains des plus proches parents catholiques. Ordre contre lequel la nature réclamait à si haute voix qu'il ne fut pas exécuté. Mais dans ce célèbre édit qui révoqua celui de Nantes, il paraît qu'on prépara un événement tout contraire au but qu'on s'était proposé. On voulait la réunion des calvinistes à l'église dans le royaume. Gourville, homme très judicieux, consulté par Louvois, lui avait proposé, comme on sait, de faire enfermer tous les ministres et de ne relâcher que ceux qui, gagnés par des pensions secrètes, abjureraient en public et serviraient à la réunion plus que des missionnaires et des soldats. Au lieu de suivre cet avis politique, il fut ordonné par l'édit à tous les ministres qui ne voulaient pas se convertir de sortir du royaume dans 15 jours. C'était s'aveugler que de penser qu'en chassant les pasteurs, une grande partie du troupeau ne suivrait pas. C'était bien présumer de sa puissance et mal connaître les hommes, de croire que tant de cœurs ulcérés et tant d'imagination échauffée par l'idée du martyr, surtout dans les pays méridionaux de la France, ne s'exposeraient pas à tout pour aller chez les étrangers publier leur constance et la gloire de leur exil, parmi tant de nations envieuses de Louis XIV, qui tendaient les bras à ses troupes fugitives. Le vieux chancelier Le Tellier, en signant l'édit, ne savait pas qu'il signait un des plus grands malheurs de la France. Louvois, son fils, se trompait encore en croyant qu'il suffirait d'un ordre de sa main pour garder toutes les frontières et toutes les côtes contre ceux qui se faisaient un devoir de la fuite. L'industrie occupée à tromper la loi est toujours plus forte que l'autorité. Il suffisait de quelques gardes gagnés pour favoriser la foule des réfugiés. Près de 50 000 familles, en 3 ans de temps, sortirent du royaume et furent après suivies par d'autres. Elles allèrent porter chez les étrangers les arts, les manufactures, la richesse. Presque tout le nord de l'Allemagne, pays encore agreste et dénué d'industrie, reçut une nouvelle face de ces multitudes transplantées. Elles peuplèrent des villes entières. Les étoffes, les galons, les chapeaux, les bas qu'on achetait auparavant en France furent fabriqués par eux. Un faubourg entier de Londres fut peuplé d'ouvriers français en soie. D'autres y portèrent l'art de donner la perfection aux cristaux, qui fut alors perdu en France. On trouve encore très communément dans l'Allemagne l'or que les réfugiés y répandirent. Ainsi, la France perdit environ 500 000 habitants, une quantité prodigieuse d'espèces, et surtout des arts dont ses ennemis s'enrichirent. La Hollande y gagna d'excellents officiers et de soldats. Le prince d'Orange et le duc de Savoie eurent des régiments entiers de réfugiés. Ces mêmes souverains de Savoie et de Piémont, qui avaient exercé tant de cruauté contre les réformés de leur pays, soudoyaient ceux de la France. Et ce n'était pas assurément par zèle de religion que le prince d'Orange les enrôlait. Il y en eut qui s'établirent jusque vers le cap de Bonne-Espérance. Le neveu du célèbre Duquesne, lieutenant général de la marine, fonda une petite colonie à cette extrémité de la terre. Elle n'a pas prospéré. Ceux qui s'embarquèrent périrent pour la plupart. Mais enfin, il y a encore des restes de cette colonie voisine des Hottentots. Les Français ont été dispersés plus loin que les Juifs. Ce fut en vain qu'on remplit les prisons et les galères de ceux qu'on arrêta dans leur fuite. Que faire de tant de malheureux, affermis dans leur croyance par les tourments ? Comment laisser aux galères des gens de loi, des vieillards infirmes ? On en fit embarquer quelques centaines pour l'Amérique. On défendit aux calvinistes, en 1685, de se faire servir par des catholiques, de peur que les maîtres ne pervertissent les domestiques. Et, l'année d'après, un autre édit leur ordonna de se défaire des domestiques huguenots, afin de pouvoir les arrêter comme vagabonds. Il n'y avait rien de stable dans la manière de les persécuter, que le dessein de les opprimer pour les convertir. Temples détruits, tous les ministres bannis, il s'agissait de retenir dans la communion romaine tous ceux qui avaient changé par persuasion ou par crainte. Il en restait plus de 400 000 dans le royaume. Ils étaient obligés d'aller à la messe et de communier. Quelques-uns qui rejetèrent l'hostie après l'avoir reçue furent condamnés à être brûlés vifs. Les corps de ceux qui ne voulaient pas recevoir les sacrements à la mort étaient traînés sur la clé et jetés à la voirie. Toute persécution fait des prosélytes quand elle frappe pendant la chaleur de l'enthousiasme. Les calvinistes s'assemblèrent partout pour chanter leurs psaumes, malgré la peine de mort décernée contre ceux qui tiendraient des assemblées. Il y avait aussi peine de mort contre les ministres qui rentreraient dans le royaume, et 5500 livres de récompense pour qui les dénoncerait. Il en revint plusieurs qu'on fit périr par la corde ou par la roue. La secte subsista en paraissant écrasée. Dans la guerre de 1701, la rébellion et le fanatisme éclatèrent en Languedoc et dans les contrées voisines. Cette rébellion fut excitée par des prophéties. Les prédictions ont été de tout temps un moyen dont on s'est servi pour séduire les simples et pour enflammer les fanatiques. Si aucune prédiction ne s'accomplit, on les explique, on leur donne un sens, et les enthousiastes l'adoptent, et les imbéciles le croient. Le ministre Jurieux fut un des plus ardents prophètes. Il promit la délivrance du peuple de Dieu pendant 8 années. Son école de prophétie s'était établie dans les montagnes du Dauphiné, du Vivarais, des Cévennes, pays tout propre aux prédictions, peuplé d'ignorants et de cervelles chaudes, échauffés par la chaleur du climat et plus encore par leurs prédicants. Tandis que les Cévennes étaient ainsi l'école de l'enthousiasme, des ministres, qu'on appelait apôtres, revenaient en secret prêcher les peuples. Une grande partie du pays les favorisait secrètement. Leur cri de guerre était « Point d'impôts et liberté de conscience !» Ces fureurs justifiaient aux yeux du peuple le dessein qu'avait eu Louis XIV d'extirper le calvinisme. Mais sans la révocation de l'édit de Nantes, on n'aurait pas eu à combattre ces fureurs. Il est affreux, sans doute, que l'Église chrétienne ait toujours été déchirée par ces querelles et que le sang ait coulé pendant tant de siècles par des mains qui portaient le Dieu de la paix. Cette fureur fut inconnue au paganisme. Il couvrit la terre de ténèbres, mais il ne l'arrosa guère que du sang des animaux. Et si quelquefois, chez les Juifs et chez les païens, on dévoua des victimes humaines, ces dévouements, tout horribles qu'ils étaient, ne causèrent point de guerre civile. La religion des païens ne consistait que dans la morale et dans les fêtes. La morale qui est commune aux hommes de tous les temps et de tous les lieux. Et les fêtes qui n'étaient que des réjouissances ne pouvaient troubler le genre humain. L'esprit dogmatique apporta chez les hommes la fureur des guerres de religion. Toute autorité blesse en secret les hommes. D'autant plus que toute autorité veut toujours s'accroître. Lorsqu'on trouve, pour lui résister, un prétexte qu'on croit sacré, on se fait bientôt un devoir de la révolte. Ainsi, les uns deviennent persécuteurs, les autres rebelles, en attestant Dieu des deux côtés. Ces excès du fanatisme ne pouvaient guère réussir en Angleterre, où la philosophie commençait à dominer. Ils ne troublaient plus l'Allemagne depuis que les trois religions, la catholique, l'évangélique et la réformée, y étaient également protégées par les traités de Westphalie. Les provinces unies admettaient dans leur sein toutes les religions par une tolérance politique. Enfin, il n'y eut, sur la fin de ce siècle, que la France qui essuya de grandes querelles ecclésiastiques, malgré les progrès de la raison.
Grâce à des textes signés Ernest Lavis de l'Académie française, nous allons maintenant évoquer l'état du commerce et des colonies sous le roi Louis XIV. Ernest Lavis naît le 17 décembre 1842 au Nouvion à Thierrache, dans l'Aisne, à quelques kilomètres de la Belgique. Il meurt à Paris le 18 août 1922. Cet historien français fut élu à l'Académie française le 2 juin 1892. Fils d'un modeste boutiquier, Lavis, boursier, intègre l'école normale supérieure et obtient son agrégation d'histoire en 1865. Lavis devient précepteur du prince impérial, sur recommandation du ministre Victor Duruy, académicien lui aussi et historien. La défaite de 1870 touche au plus profond de lui-même ce protégé du régime. Décidé à œuvrer pour sa patrie vaincue, Lavis part étudier le fonctionnement du système universitaire de l'Allemagne victorieuse. Durant 3 années, il étudie sur place l'histoire et les origines de la Prusse, thème qui restera sa spécialité. De retour d'Allemagne, Lavis se rallie par degrés au régime républicain jusqu'à y adhérer tout à fait lors de la crise du 16 mai 1877. Personnage phare de la Troisième République, Ernest Lavis devient directeur de l'école normale supérieure. Il mène durant sa carrière la régénération du système universitaire et scolaire français. Sa politique se révèle d'ailleurs plus patriotique que républicaine, comme les conservateurs s'en rendront compte très vite. Il sera l'un des cofondateurs de la Ligue française. Professeur talentueux et orateur hors pair, il est capable de subjuguer par la force de son discours les auditoires les plus divers. Ses ouvrages, parmi lesquels les nombreux manuels Lavis, accompagnent la formation de multiples générations de professeurs, d'instituteurs, d'élèves. Ils vont faire naître, phénomène nouveau, une véritable culture historique populaire en France. Durant 2 décennies, il dirige la publication des célèbres ouvrages collectifs qui portent son nom, Histoire de France, illustrée depuis les origines jusqu'à la Révolution et l'histoire contemporaine de la France. Sans nul doute, le plus grand ministre du règne de Louis XIV fut Colbert. Sévère et dur, Colbert fut le plus dévoué et le plus laborieux des ministres. L'idée qui inspira tous ses actes fut d'enrichir la France, c'est-à-dire d'augmenter son stock monétaire. À ses yeux, en effet, la richesse d'un pays consiste uniquement dans ce qu'il appelait l'abondance d'argent. Mais Malgré les efforts de Richelieu, la flotte de commerce était presque inexistante en 1661. La plus grande partie des exportations et des importations françaises se faisait par navires hollandais. Colbert voulut mettre fin à cette situation qu'il jugeait déshonorante. Pendant toute sa vie, la suprématie commerciale de la Hollande fut son cauchemar. Il encouragea les armateurs français en leur donnant des primes, fit acheter des navires à l'étranger, créa des arsenaux, aménagea les ports de Sète, Rochefort, Lorient et de Brest. Mais rares furent les Français qui placèrent leurs capitaux dans les entreprises commerciales et les marins français du XVIIe siècle ne valaient pas ceux du XVIe siècle. C'est ce que l'historien académicien Ernest Lavis va vous démontrer dans un instant. Pour terminer cette évocation de Louis XIV et pour montrer le rayonnement de son règne au-delà des mers, nous avons choisi de parler du grand commerce extérieur français à cette époque et plus particulièrement du commerce avec les Indes, la Chine et la mer du Sud, puis avec l'Amérique. La manière de tirer profit des colonies est révélatrice des mentalités de ce temps. Voici donc des extraits du chapitre 4 du tome 8 de l'Histoire de France depuis les origines jusqu'à la Révolution, publié en 1902 sous la direction d'Ernest Lavis. Tout d'abord, mettons le cap sur les Indes orientales avec l'évocation de François Martin.
La Compagnie des Indes orientales survécut à Colbert. Elle avait le monopole du commerce français dans l'océan Indien depuis la Perse et l'Inde jusqu'à l'Indochine et au-delà de Malacca dans la mer Pacifique jusqu'au Tonkin et en Chine. Dans l'Inde, la France avait quelques comptoirs sur la côte occidentale et orientale, dont les principaux étaient Surat et Pondichéry, voisins des comptoirs rivaux des Hollandais, des Anglais et des Portugais. La compagnie était représentée dans l'Inde par deux directeurs qui étaient en 1685 pour Surat puis Lavoine et pour Pondichéry, François Martin. Martin ouvrit des débouchés au commerce sur la côte du Coromandel et dans le Bengale, bâtit Pondichéry, entra en relation avec les princes hindous et profita de leur rivalité et de leurs difficultés avec le grand mogol, seigneur suzerain, qui résidait très loin dans le nord à Delhi et dont l'autorité n'était plus que nominale. Administrateur pratique, courageux, tenace, à la fois marchand et soldat, il eut la gloire, avant Dupleix, de montrer aux Français la politique à suivre dans l'Inde.
Parlons maintenant du commerce dans les Indes, la Chine, la mer du Sud.
La compagnie faisait le commerce d'Inde en Inde. Elle transportait au Coromandel et au Bengale ce qu'elle avait acheté sur la côte du Malabar et en Perse. À la suite d'un échange d'ambassades entre France et Siam dès 1680, surtout en 1684 et 1685, elle noua des relations avec le royaume de Siam où elle vendait des toiles de l'Inde et achetait du cuivre et surtout du poivre dont les Siamois, par antipathie pour les Hollandais et les Anglais, lui avaient donné le monopole en même temps que le droit de s'installer à Mergui, rade sûre du golfe du Bengale. La compagnie avait comme port d'attache l'Orient, Port-Louis, Nantes. Parfois aussi, des navires se dirigeaient sur Saint-Malo. Elle importait des toiles peintes, des toiles blanches et des mousselines, des étoffes de soie d'or et d'argent, des tapis de Perse, du bois de santal, du riz, du poivre de Calicut et de Siam.
Ernest Lavis évoque maintenant la chute d'une grande compagnie.
Malgré l'activité de Martin, elle déclina peu à peu. Les guerres de la fin du règne lui furent funestes. Pondichéry fut pris par les Hollandais. La place, il est vrai, fut rendue à la paix. La compagnie souffrit de l'augmentation des droits d'entrée en France et de l'empêchement mis au commerce des toiles peintes et des étoffes de soie d'or et d'argent. Déjà en 1682, elle avait dû permettre aux particuliers d'envoyer des marchandises aux Indes à la condition de se servir de ses vaisseaux. En 1686, elle renonce définitivement à l'île Dauphine, Madagascar. En 1698, elle abandonne le monopole du commerce avec la Chine, qu'elle s'était fait attribuer un moment. En 1712, pour acquitter ses 10 millions de dettes, elle est obligée d'abandonner son commerce aux négociants de Saint-Malo. Et quand elle demande le renouvellement de son privilège en 1714, c'est pour en faire argent. En 1716, elle le vendra à une compagnie de Saint-Malo, moyennant 10% sur les ventes et 5% sur les prises.
Mettons le cap vers la Chine et la mer du Sud.
En 1698, Jourdan, grand manufacturier de Paris, sur les instances d'un missionnaire, le père Bouvet, fonda une compagnie de Chine composée de magistrats, conseillers ou avocats au Parlement et de marchands parisiens. Les premières opérations furent brillantes. L'Amphitrite, vaisseau de 500 tonneaux, monté par 150 hommes et muni de 30 canons, qui partit de La Rochelle au mois de mars 1698 et revint à Port-Louis en août 1700, rapporta quantité de marchandises, bois, soieries, etc., dont la vente très fructueuse permit de donner aux actionnaires un bénéfice de 50%. La compagnie de Chine s'associa à une compagnie de Saint-Malo dirigée par l'armateur Danican, qui avait obtenu en 1698 le monopole du commerce des mers du Sud, c'est en Pacifique. Les navires des compagnies fusionnées partaient de Saint-Malo, parfois de Port-Louis pour Macao, Amoy, surtout Canton, où les Européens étaient mieux traités que partout ailleurs. Ils rapportaient de belles étoffes et des soies brutes.
Pas de quartier !
D'autre part, même en temps de guerre, bravant les corsaires, ils exploitaient le domaine de la mer Pacifique que s'étaient réservés les Espagnols. Ils visitaient les ports de la côte occidentale de l'Amérique du Sud, sous prétexte d'y faire de l'eau et de s'y rafraîchir, comme s'ils allaient à la Chine ou au Japon. Et ils revenaient chargés de fourrures d'autruche, de bois de teinture, surtout d'or et d'argent en barres ou en piastres. Mais l'accord ne dura pas longtemps entre les deux sociétés de Paris et de Saint-Malo et la compagnie fut déclarée déchue de son monopole.
Évocation maintenant de la Compagnie de Chine, 1712-1719.
Elle céda la place à une nouvelle compagnie de Chine d'origine malouine, qui ne fut pas plus heureuse que l'ancienne. Les soies de Chine, qui pouvaient faire concurrence à celles de France et d'Italie, furent prohibées en 1713. La compagnie, privée de son fret de retour, ne fit plus que languir jusqu'au jour où elle s'absorba dans la grande compagnie des Indes, 1719.
Parlons de l'activité française en mer de Chine.
L'activité des Français en Chine et dans la mer Pacifique fut vraiment remarquable à partir de 1705 surtout. Chaque année, il partait au moins une dizaine de navires pour le Pacifique. En 1714, il en partit 20. Les principaux armateurs étaient à Saint-Malo, Danican et Bourdas, à Dunkerque, Quiécourt, à Marseille, Crozat. Le navire Le Grand Dauphin de Saint-Malo fit le tour du monde de 1711 à 1713 et le refit de 1714 à 1717. La comtesse de Pontchartrain le fit elle aussi, mais de l'ouest à l'est. Lorsque, en 1708, le Saint-Antoine, vaisseau armé par des particuliers et un des premiers qui contournèrent l'Amérique pour se rendre au port chinois, entra au port de la Conception, sur la côte de Chili, il y trouva toute une flottille française, le Filippo, le Saint-Charles, le Royal Jack, le Maurepas, le Saint-Louis, la Toison et un seul navire étranger, le Sacramento. Dans les ports voisins, mouillaient d'autres vaisseaux français, dont le Saint-Antoine devait rencontrer plusieurs dans sa traversée de l'océan.
Nous abordons maintenant le tome 8, chapitre 4, le grand commerce et les colonies. Le commerce avec l'Amérique, l'Amérique du Nord.
À la fin du XVIIe siècle, la France possède dans l'Amérique du Nord les îles situées à l'estuaire du Saint-Laurent, l'île Saint-Jean, l'île Royale, Terre-Neuve, la presqu'île de l'Acadie, le Canada jusqu'au Grand Lac, le territoire de la baie d'Hudson, zone où elle se rencontre avec les Anglais, et vers le sud-ouest, l'immense vallée du Mississippi, qui se relie par le fleuve lui-même et par son affluent, l'Ohio, à la région des lacs.
Cap sur l'Acadie.
Les îles de l'estuaire du Saint-Laurent ne sont guère peuplées. Les Français font la pêche de la morue sur le grand banc de Terre-Neuve, séjournent quelque temps dans l'île pour faire sécher ou saler le poisson, puis repartent pour les ports normands et bretons. L'Acadie, en 1686, ne compte que 885 habitants. Elle n'a qu'un millier de bêtes à cornes environ et que 900 arpents de sol labouré. Ses relations sont presque nulles avec le Canada et la vallée du Saint-Laurent. Il n'y a pas de route entre Québec et Port-Royal. L'Acadie est beaucoup plus en rapport avec les Anglais établis sur la côte de l'Atlantique. La pêche du pays appartient presque tout entière aux matelots de Boston.
Nous partons ensemble pour le Canada.
Entre les Anglais de la baie du Hudson et ceux de l'Atlantique, le Canada s'étend le long du Saint-Laurent. Là s'élèvent les villes de Québec, Trois-Rivières, Montréal. Les marchands sédentaires sont à Québec, les commerçants nomades à Montréal. Dans la région des lacs, les Français se sont avancés, surtout à partir de 1675. Le comte de Frontenac, gouverneur du Canada, en se conciliant à la Confédération des cinq nations iroquoises et en empêchant la guerre entre Iroquois d'une part, Illinois et Outaouais de l'autre, s'est frayé passage jusqu'à cette mer intérieure. En territoire sauvage est établie une série de forts, à la fois postes militaires et marchés. Le fort Frontenac, à l'extrémité orientale du lac Ontario, bien approvisionné, où presque chaque année le gouverneur vient tenir des conférences avec les chefs iroquois. Le fort Niagara, entre l'Ontario et l'Érier. Saint-Joseph des Miamis, entre l'Érier et le lac des Illinois, Michigan. Enfin, Michilimackinac, à la jonction des trois grands lacs supérieurs, des Illinois et des Hurons. Ces postes, à l'exception de celui de Niagara, évacué en 1688, servent de point de départ aux explorateurs pour des courses nouvelles. Dès 1682, grâce à Duluth, la domination française s'étend jusqu'à l'extrémité du lac supérieur. La population du Canada s'élève alors à 12 000 habitants et un millier d'indigènes vivent au milieu d'elle.
Voyageons dans la baie d'Hudson et dans la Louisiane.
La colonie canadienne a des annexes. De la vallée du Saint-Laurent et de la région des lacs partent vers le nord coureurs de bois et marchands en quête de pelleterie. Et ainsi est rattaché le territoire de la baie d'Hudson. Vers le sud-ouest, le Canada prend dès 1682 une extension extraordinaire grâce à l'indomptable courage d'un des plus grands explorateurs qu'ait vu l'Amérique, Cavelier de La Salle.
Évoquons un grand personnage. Cavelier de La Salle.
Négociant de Rouen, agent d'une société d'actionnaires, La Salle, comme ses ancêtres, les Normands, découvreurs des côtes occidentales d'Afrique, se lance dans l'inconnu. En 1680, il s'établit au pays des Illinois et y construit un fort, mais il ne peut s'engager sur le fleuve que 2 ans après. Ses créanciers l'ont obligé 2 fois à quitter son fort, Crève-Cœur, pour descendre jusqu'à Montréal. Il part enfin au commencement de 1682 avec quelques compagnons. Ils descendent sur des barques au Mississippi et le 9 avril 1682, ils arrivent aux bouches du fleuve. Là, dit La Salle, on écarrit un arbre dont on fit un poteau qu'on planta et on y attacha les armes du roi faites du cuivre d'une chaudière. On planta aussi une croix et on enterra dessous une plaque de plomb où il y avait ces mots écrits « Au nom de Louis XIV ». Roi de France et de Navarre, le 9 avril 1682. Les vivres manquaient et l'on n'avait par jour qu'une poignée de maïs. C'est ainsi que La Salle donnait à Louis XIV une nouvelle terre, la Louisiane. Il se rend ensuite à Versailles où il fonde en 1684 la Compagnie de la Louisiane ou d'Occident. Il repart avec 4 navires chargés de colons, de soldats et pourvus de vivres. Il se dirige vers le golfe du Mexique, mais il ne peut reconnaître l'embouchure du Mississippi, perdu au milieu des immenses alluvions du fleuve, et il débarque sur une côte inconnue et inhospitalière, où périssent presque tous les siens et où lui-même est assassiné en 1687. 7 ou 8 ans plus tard, d'Iberville, normand comme lui, reconnut l'embouchure du Mississippi. Ainsi, le Canada s'étend d'une manière démesurée et les possessions françaises par le Saint-Laurent, les lacs et le Mississippi enserrent les colonies anglaises de la côte atlantique. Mais c'est à ce moment que Louis XIV est obligé par le traité d'Utrecht de céder à l'Angleterre les annexes maritimes du Canada, l'Acadie et Terre-Neuve en 1713.
Quelques précisions sur le commerce canadien.
Le commerce avec le Canada et ses annexes consiste surtout en pelleterie, que des compagnies de marchands achètent aux sauvages et aux coureurs de bois. Les peaux de castor et d'autres animaux ne peuvent entrer en France que par 4 ports, Rouen, Le Havre, Dieppe et La Rochelle. Rouen et La Rochelle sont les 2 grands marchés de pelleterie du royaume. En échange, les Français apportent au Canada des eaux de vie et divers produits manufacturés. Mais les Anglais vendent aux sauvages à très bon marché des marchandises qui leur plaisent, comme les écarlatines d'Angleterre aux belles couleurs rouges. Ils réussissent ainsi à enlever les plus beaux castors. Les concessionnaires français se plaignent, demandent au gouvernement de laisser sortir de La Rochelle des écarlatines importées d'Angleterre, qu'ils échangeront ensuite au Québec contre du castor. En vain, Pontchartrain, secrétaire d'État de la Marine, supplie-t-il en 1714 le contrôleur général des Marettes de permettre à Néré et Gaillot la sortie de 250 pièces d'écarlatine. Des Marettes, songeant seulement au droit du trésor, refuse cette grâce.
Parlons des grandes compagnies de commerce.
Le domaine français de l'Amérique du Nord était exploité par des compagnies commerciales. La compagnie de l'Acadie, formée en 1683, qui fut remplacée en 1703 par la compagnie du Canada et qui ne réussirent point. Les essais de colonisation de La Salle, en Louisiane, n'avaient pas mieux réussi. Après la paix de Ryswick, le roi avait envoyé dans ce vaste pays une garnison qui devait tenir les forts. La Louisiane était une immensité inoccupée. Le roi accorda au financier Antoine Crozat le privilège du commerce pendant 15 ans dans tout le pays, situé entre la Caroline des Anglais et le Nouveau-Mexique, avec l'obligation de fournir à sa garnison vivres, effets et munitions. 14 septembre 1712. Ce pays où l'on plaçait de riches mines d'or devait, sous la régence, devenir le domaine d'une nouvelle compagnie, celle du Mississippi, établie par Law.
Cap sur les îles d'Amérique.
La France fait un grand commerce avec ses îles d'Amérique, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Domingue, dont elle n'occupe que la partie occidentale. Enfin, une série de petites Antilles, la Grenade, Marie-Galante, Saint-Christophe, etc. Ces îles ont été lentement peuplées par la métropole. D'abord sont arrivés des hommes de race blanche, nobles en quête d'aventure, moines à la recherche d'âmes à convertir et de beaux profits à faire, agriculteurs et marchands, engagés volontaires ou forcés des compagnies. Ensuite sont venus d'Afrique sur les vaisseaux des compagnies, des hommes de couleur, les blancs tendant de plus en plus à substituer au travail libre le travail servile. La population noire finit par être la plus nombreuse. En 1686, nos colonies des îles comptent environ 19 000 blancs et 27 000 nègres. En 1701, il y a 44 000 nègres, rien que dans les 3 principales îles, 8 000 à la Guadeloupe, 46 000 à la Martinique, 20 000 à Saint-Domingue. Say. Les colonies se plaignent du manque de main-d'œuvre. Il n'y a pas encore assez de noirs aux îles. Les colons ne sont pas riches. Ils paient plus souvent en nature, en sucre ou en tabac qu'en espèces. Et quand viennent les mauvaises récoltes, ils ont beaucoup de difficultés à s'acquitter de leurs dettes. Les compagnies vendent peu de nègres à la fois et elles n'en introduisent de nouveaux que lorsqu'elles ont été payées de leur envoi antérieur. Ces nègres, esclaves, mal nourris, mal vêtus, accablés de travail, ne se reproduisent guère. Le code noir préparé par Colbert oblige les maîtres à nourrir et à vêtir convenablement leurs esclaves, à les traiter d'une manière plus humaine, à les considérer non plus comme des choses, mais comme des hommes inférieurs, il est vrai, aux autres. Mais la condition des nègres reste misérable, bien qu'elle soit meilleure dans l'économie française que dans celle des Anglais et des Hollandais. Presque aucune industrie dans ces îles d'Amérique, les nègres étant presque exclusivement attachés à la culture, seulement quelques raffineries qui, d'ailleurs, eurent à compter avec les intérêts rivaux des négociants de France. De riches cultures, canne à sucre d'abord, puis indigo, tabac, coton, cacao, café, casse, gingembre, puis quelques produits accessoires, écailles de tortue, bois de teinture. Les cultures ne se développent pas assez rapidement, quelques-unes même périclitent. La création du monopole du tabac au profit de l'État fait tomber en décadence une des plus belles cultures de Saint-Domingue. D'ailleurs, nos îles sont mal protégées en temps de guerre et les flibustiers, dédaigneux de tout travail agricole, embarras perpétuel pour le gouverneur de Saint-Domingue, ne font guère qu'attirer par leurs hardis coups de main les représailles de l'ennemi.
Évoquons les colons et la métropole.
Dans ses rapports avec les colonies, la métropole ne cherche que son intérêt. Les colons sont toujours sacrifiés aux compagnies et aux négociants de France. On l'a vu par l'interdiction de la raffinerie et l'établissement du monopole du tabac. De France, on leur prescrit certaines cultures et on les détourne de certaines autres, sous prétexte que la diversité des cultures dans les colonies est la chose la plus importante à leur bien.
Toute voile flottante vers les ports du Ponant.
Le commerce des îles était réservé aux ports de Rouen, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, par un privilège auquel Dunkerque, à la suite de ses réclamations, avait obtenu de participer en 1704. Les navires partent en novembre et décembre et arrivent aux îles en février et mars, chargés de bœufs salés d'Irlande, de farine, de vin et eau-de-vie, de toile pour les vêtements des nègres et les emballages, enfin de grandes quantités de tortues pêchées aux îles du Cap-Vert et salées en route qui servent de nourriture aux nègres. Ils repartent vers juin, remplis de sucre brut, de cacao, d'indigo, de cuir, d'écailles de tortue, etc., qui sont en partie consommés en France, en partie expédiés à l'étranger. Nantes, La Rochelle, Bordeaux deviennent de grands entrepôts de denrées coloniales pour la France et une partie de l'Europe. Le sucre que l'on raffine en France, à Nantes, Angers, Saumur, Orléans, Bordeaux, est une des principales matières du commerce des îles. Mais le chargement d'un vaisseau en nègre, disait-on au XVIIe siècle, produit trois fois plus qu'un chargement en sucre. Les compagnies privilégiées transportent aux îles des nègres de la côte occidentale d'Afrique. À la compagnie du Sénégal, qui avait reçu de Colbert le monopole de la traite, succède la compagnie de Guinée en 1685. Elle doit fournir chaque année 1000 nègres et reçoit une prime de 13 livres par tête. Quantité insuffisante et prix trop élevé, telles sont les plaintes continuelles des colons et des administrateurs des îles. Mais les compagnies, outre qu'elles sont exigeantes pour le paiement, ne veulent pas aviller le prix de leurs marchandises. Le roi essaie divers moyens pour peupler les îles. Le commerce des îles, outre qu'il eut beaucoup à souffrir du régime économique, fut grandement gêné par la guerre. Mais pendant la paix, malgré les embarras et les difficultés de toutes sortes, il est assez actif pour enrichir les ports du Ponant, Nantes surtout. Nantes envoie par an, après la paix de Ryswick, 25 à 30 vaisseaux à la Martinique, 8 à 10 à la Guadeloupe, 1 ou 2 à la pêche de la tortue au Cap-Vert, 8 à 10 à Saint-Domingue, 1 ou 2 à Cayenne. Après la paix d'Utrecht, ce commerce prendra un grand essor et peu à peu se placera au premier rang à côté du commerce avec le Levant.
La conclusion d'Ernest Lavis sur le commerce.
L'histoire du commerce extérieur de la France se trouve presque toujours dans les vicissitudes des compagnies privilégiées. Colbert avait vu disparaître l'une après l'autre ses compagnies. Ses successeurs subirent les mêmes échecs. À cet insuccès persistant, il faut assigner les mêmes causes. D'abord, l'individualisme des commerçants. Chacun veut faire soi-même ses affaires et se défie des grandes entreprises qui monopolisent le commerce. Ensuite, la disette d'argent. Non qu'il n'y ait de riches négociants, mais ce sont des exceptions. Les petites fortunes sont peu à peu absorbées par les impôts ou par les créations continuelles de rentes et d'offices. Le bourgeois veut bien acheter une charge qui lui donnera des gages et de la considération, mais ses habitudes d'économie et de prudence écartent des placements risqués dans des affaires lointaines. Aussi, les compagnies manquent-elles de capitaux. Les fonds versés sont tout à fait insuffisants pour l'exploitation du vaste domaine qui leur a été concédé. Ce ne sont pas des affaires nationales. Les privilégiés, presque tous les bourgeois, portent leur attention ailleurs, mais seulement celle de quelques marchands et banquiers. Cependant, et ceci est remarquable, malgré les guerres et la fiscalité qui entravent le trafic avec le Nord, le Levant et les colonies, l'horizon du commerce français s'élargit. Il embrasse désormais la Moscovie, l'Éthiopie, la Perse, l'océan Pacifique. Le Ponant se réveille. Dans les ports et les grandes places de commerce, à Nantes, à Saint-Malo, à Marseille, à Lyon, l'initiative des armateurs et des négociants se déploie au milieu des entraves de la politique commerciale. Même pendant la guerre, les espérances de relèvement se manifestent. L'activité française dans l'océan Pacifique en est un des symptômes évidents. Après la paix rétablie en 1716, les exportations dépassèrent les importations de 36 millions. C'était le présage d'une période de prospérité.
Vous venez d'écouter « Les académiciens racontent l'histoire » de Louis XIV, second volet. Les textes de Voltaire ont été lus par Mathieu Lempire, comédien. Philippe Andrieux a prêté sa voix au texte d'Ernest Lavis. Choix des textes, Daniel Jeanne. Enregistrement, Steve Dineka. Montage, mixage, Jérôme Le Baron. Réalisation, Virginia Crespo.